Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Cent jours du gouvernement souminois, c'est exactement ce jeudi. Mais à quand l'effectivité de la mise en œuvre du programme de ce gouvernement? Deux questions orales et écrites sont adressées dans ce sens à la première ministre par les députés Crispin Bindoulé et Gary Sakata. La société civile du Nord Kivu, consternée par la poursuite des crimes graves perpétrés dans le Rutshuru par la coalition M23-RDF-AFC, elle recommande entre autres au chef de l'État de mobiliser les efforts pour libérer les zones occupées par les rebelles. Ceci est contenu dans un communiqué publié mardi. Et puis, l'université officielle de Mbujimayi se dote de plus en plus des équipements pour concilier la théorie à la pratique, mais elle est confrontée à plusieurs défis liés à la violence physique, morale et à la corruption. Pour en parler, nous recevons le recteur de cette université, l'abbé Chibaka Chikongo. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouvernement Judith Suminwa vient de réaliser exactement 100 jours ce jeudi depuis son investiture dans la nuit du 11 au 12 juin dernier par l'Assemblée nationale. De retour des vacances parlementaires, certains députés estiment que l'action du gouvernement n'est pas encore palpable dans leur circonscription au regard de la situation misérable dans laquelle vivent les Congolais dans presque tous les secteurs de la vie nationale. C'est pourquoi deux députés, Crispin Bindoulé et Gary Sakata, adressent deux questions, l'une orale et l'autre écrite à la première ministre Judith Suminwa. Elle porte notamment sur l'effectivité du commencement de la mise en œuvre du programme de son gouvernement ainsi que sur la politique générale de son gouvernement. Les détails avec Michel Kifindangoy.
Après 100 jours d'investiture du gouvernement souminois, les Congolais se demandent à travers leurs élus les réalisations gouvernementales, notamment en ce qui concerne la création des emplois et la protection du pouvoir d'achat, la défense et sécurité, ainsi que la reconstruction des infrastructures. Au regard des multiples doléances enregistrées pendant les vacances parlementaires, le député Gary Sakata adresse une question écrite à la première ministre, à savoir... Quelle évaluation fait-elle de l'exécution des 6 piliers du programme gouvernemental pendant les 100 premiers jours? L'élu de Bagata veut savoir les réalisations concrètes du gouvernement souminois, tout particulièrement dans les secteurs sécuritaires et de gouvernance électorale. Pour sa part, dans sa question orale avec débat, le député Crispin Bindoulé interroge la chef du gouvernement autour du niveau d'exécution du programme 2024-2028. L'élu de Butembo dans le Nord Kivu veut savoir notamment combien d'emplois ont déjà été créés sur les 1 500 000 promis, mais aussi quelles actions phares déjà entreprises pour assurer l'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé et à l'éducation.
Parlant de la première ministre Judith Suminwa, notez qu'elle a lancé hier à Matadi la deuxième étape des assises de la 8e édition de l'Expo Béton. Il s'agit d'un salon de réflexion sur le développement des villes et entités à travers des constructions dans les normes requises. Dans son adresse, la chef du gouvernement a indiqué que le thème de cette 1e édition de l'Expo Béton, à savoir révolution urbaine et des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central, coïncide avec sa vision de développement coulée dans son programme quinquennal. Voici un extrait du discours de la première ministre recueilli par Nana Plurish Mambo.
Il est important de souligner que le thème « Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central » est en parfait alignement avec notre vision de développement telle que voulue par Son Excellence Monsieur le Président de la République et coulée dans notre programme d'action du gouvernement. Faire participer le secteur privé à l'assainissement de ces villes, améliorer la mobilité urbaine, améliorer la desserte aérienne et accroître la capacité hôtelière et la desserte numérique pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement durable en vue d'améliorer le cadre de vie de nos populations. Les infrastructures à mettre en place doivent garantir à chaque Congolais un accès équitable aux services sociaux de base, aux opportunités économiques, aux possibilités de se développer pour cimenter le socle de la cohésion nationale et réduire les inégalités. Je puis vous assurer que le projet de budget que j'ai déposé au Parlement comprend des interventions directes de l'État congolais pour réaliser rapidement des travaux d'envergure afin de rendre opérationnel le corridor ouest qui comprend et touche une population de près de 40 millions d'habitants.
Direction le Nord Kivu. Parlons de ce cri d'alarme de la coordination provinciale de la société civile. Elle s'est dit consternée par la poursuite des crimes graves perpétrés contre la population de Rutshuru par la coalition M23 RDF AFC. Dans un communiqué du mardi 17 septembre, cette structure estime que le cessez-le-feu n'est fait qu'exposer la population aux crimes commis par les terroristes du M23 RDF AFC. La société civile Force Vive du Nord Kivu recommande entre autres au président de la République de mobiliser tous les efforts sur le plan militaire et diplomatique pour libérer les zones occupées par les rebelles et soulager ainsi la souffrance de la population. L'essentiel de se communiquer avec Sifa Maguru.
Dans ses communiqués, la coordination de la société civile du Nord Kivu souligne entre autres cas celui des 40 motos appartenant à des cultivateurs qui fréquentent la zone de Kiseguru, motos qui ont été incendiées par la M23 le 14 septembre. Par la suite, ces rebelles ont pris la mesure d'interdire l'accès aux champs aux agriculteurs de Kiseguru qu'ils assimilent au FDLR, rapporte ce communiqué. La société civile ajoute que la population des milieux ruraux ne vit que des activités champêtres. Leur priver l'accès aux champs, c'est les précipiter vers la mort, dit-elle. Cette structure demande aux Nations Unies, à l'Union Européenne et l'Union Africaine d'infliger des sanctions sévères aux dirigeants rwandais, mais aussi aux populations, de s'élever pour faire pression au gouvernement de la RDC afin de libérer les zones sous emprise de l'ennemi, précise ce communiqué signé par John Banyene, son président. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
La MONUSCO va continuer sa coopération militaire avec les autorités provinciales compte tenu de l'instabilité sécuritaire dans la province du Nord Kivu. C'est ce qu'a dit Jean-Pierre Lacroix au sortir de l'audience avec le gouverneur militaire Peter Chirimwami. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix est arrivé hier à Goma poursuivant son séjour en RDC. Les deux personnalités ont discuté autour de trois points cruciaux, notamment l'amélioration de la coopération avec les FARDC, les efforts diplomatiques en cours et le cessez-le-feu. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU s'est dit confiant quant à la volonté des autorités provinciales et la détermination de la MONUSCO pour ramener la paix. Il reconnaît cependant quelques défis pour y arriver. Jean-Pierre Lacroix le dit au micro de Denise Loukesso.
Le gouverneur a exprimé un certain nombre d'attentes vis-à-vis de la MONUSCO en ce qui concerne la poursuite de la coopération. Nous avons discuté de la meilleure manière d'organiser l'amélioration de la coopération avec les autorités. Encore une fois, elle est très bonne, mais il y a toujours mieux à faire, en particulier avec les FARDC. Comment faire en sorte qu'il y ait la meilleure synergie possible pour tenir compte aussi de la présence d'autres acteurs comme la SAMI DRC. Nous sommes mandatés maintenant pour apporter davantage de soutien à la SAMIDRC avec les moyens de la MONUSCO. Nous avons parlé des efforts diplomatiques en cours qui sont très importants, que nous soutenons à la fois politiquement, mais aussi le soutien que nous allons apporter aux mécanismes de vérification et cessez-le-feu. Nous avons fait le point sur le cessez-le-feu qui s'est traduit par une certaine diminution des violences, mais il y a beaucoup à faire. On ne peut pas dire qu'il y a zéro violence. Donc, beaucoup de travail à faire, une relation très confiante avec les autorités, la volonté de continuer, forte détermination de la part de nos collègues de la MONUSCO. Les défis sont là, on le sait, mais nous sommes déterminés à avancer.
Entre-temps, un militaire FARDC a été tué dans la nuit de mardi à hier mercredi par un militaire rwandais du RDF. Cela s'est passé vers le village Boussoua, dans le territoire de Nyiragongo, au Nord Kivu. Information confirmée par le porte-parole de l'armée sans des détails pour l'instant. En réaction, la société civile territoriale parle d'un acte de provocation de la part des militaires rwandais qui font souvent des incursions violant ainsi les limites frontalières. Elle demande que des enquêtes sérieuses soient menées pour tirer au clair cet énième incident du genre. Thierry Gassissiro, président de la société civile territoriale, recommande également au gouvernement de renforcer ses dispositifs sécuritaires le long de la frontière pour mettre fin une fois pour toutes à ce genre d'incursions et accusations mutuelles. En Ituri, pendant ce temps, trois jours après le massacre d'une vingtaine de personnes à Fataki et Jina dans le Djougou, la situation reste tendue. À Fataki, les écoles sont fermées et les activités économiques paralysées. Selon des sources sécuritaires, le trafic sur la nationale numéro 4 est perturbé par la présence des miliciens de Zaïre, particulièrement à Jina, où ils imposent des taxes allant de 5 à 20 dollars aux conducteurs. Mardi, des miliciens de la Codeco ont également attaqué des véhicules s'emparant des biens des passagers. Actuellement, plusieurs camions chargés de marchandises sont bloqués à Mahagui dans l'attente du rétablissement de la sécurité. Et puis, la Journée internationale de la paix, c'est le 21 septembre. En prélude à cette célébration, Radio Okapi apporte un éclairage sur le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Quelle est sa contribution dans le processus de restauration de la paix dans le Grand Nord Kivu? Élément de réponse avec Sadiki Aboubakar.
C'est depuis bientôt 2 ans que l'antenne du PDDRCS Boutembo Lubero a été installée. Grâce au financement notamment de l'unité d'appui à la stabilisation des Nations Unies, ce programme a réussi à transformer quelques centaines d'ex-combattants en citoyens utiles dans la communauté. C'est à travers des travaux de haute intensité de la main-d'œuvre qui les associe aux membres de la communauté. Eric Massinda, chef d'antenne PDDRCS Boutembo Lubero.
Le PDDRCS antenne de Lubero a déjà démobilisé 287 ex-combattants qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Ils sont en train d'être réinsérés maintenant dans leurs communautés respectives à travers notre partenaire de mise en œuvre ex-EPR par le projet Mudawamani.
70 autres ex-combattants attendent leur réinsertion dans la zone, ajoute-t-il. Un ex-combattant du groupe armé Mazembe, qui a requis l'anonymat, explique comment ce programme l'a transformé d'un ennemi de la paix en paisible citoyen.
Depuis que je suis dans la communauté, ma vie marche tellement bien. Et voilà que nous travaillons avec les jeunes à risque communautaires. Nous allons partir aussi dans des formations. Chacun de nous va choisir les métiers qu'il va apprécier.
Notez que l'antenne PDDRCS de Beni a également démobilisé et réinséré quelques centaines d'autres ex-combattants. Beni. Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, 303 détenus de la prison centrale de Makala à Kinshasa bénéficient d'une libération conditionnelle grâce à un arrêté signé par le ministre de la Justice. D'après le service de communication de ce ministère, l'opération va se poursuivre ce jeudi. Cette initiative vise à désengorger cette prison surpeuplée qui compte de nombreuses personnes en situation de détention préventive pour des infractions mineures, indique la même source. Cette libération fait suite à la première vague des libérations conditionnelles et de commutation des peines pour les condamnés qui avaient été lancés le samedi 27 juillet dernier. Santé. Dans la province de la Tchopo, le gouverneur Paulin Lendongolia a lancé officiellement hier la campagne de riposte contre la poliomyélite prévue du 19 au 21 septembre en cours. Elle va se dérouler dans 17 zones de santé sur les 23 que compte la Tchopo ainsi que dans 5 autres zones de santé du Maniema. Jacques Moukonkolé, reportage.
927 162 enfants de 0 à 59 mois sont ciblés par cette campagne dans la province de la Tchopo, selon le ministre provincial de la Santé ad intérim. Les vaccinateurs passeront de porte à porte pour administrer 2 gouttes de vaccin à chaque enfant concerné. Et Simon Simbo de souligner que des dispositions sont prises pour la réussite de cette campagne.
L'amélioration de la communication lors de la campagne, le renforcement de la qualité de la supervision lors de la campagne, l'obligation d'organiser les ratissages dans toutes les zones de santé.
À l'instar des campagnes précédentes, la présente est appuyée aussi par les partenaires techniques et financiers traditionnels du gouvernement. Il s'agit de l'UNICEF, l'OMS et Gavi. Pour le chef de bureau de l'UNICEF Kisangani, cette opportunité est à saisir également pour la récupération des enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés. Mokhtar Khan.
Au niveau de la Tchopo, nous sommes presque en peloton de queue pour les enfants non suffisamment vaccinés et 0 dose. Donc nous devons vraiment faire le maximum dans les jours, dans les semaines qui viennent pour inverser cette tendance. Il y a vraiment beaucoup de fonds, beaucoup de moyens qui ont été mobilisés pour ce fait.
À noter par ailleurs que des mesures barrières sont envisagées par des autorités afin d'éviter la contamination au Mpox pendant cette campagne de vaccination contre la polio. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et dans la série de reportages que nous vous proposons ces jours-ci sur la ville de Bounia, ce matin, nous vous amenons au poste de santé du site de Kigonze qui accueille plus de 14 000 déplacés. Situé à seulement 2 km du centre-ville, ce poste construit en 2019 grâce au financement de l'UNICEF et du programme de promotion des soins de santé primaires est devenu un pilier essentiel pour la prise en charge des femmes enceintes malgré les nombreux défis auxquels il est confronté. Martial Papimoukeba nous plonge dans ce lieu de soins où ses mères lutte quotidienne et espoir grandissant. Voici son reportage.
À l'entrée, un puits de forage assure l'accès à l'eau potable. Les bâtiments en bois et tôle abritent une salle de consultation et d'urgence ainsi qu'une salle d'accouchement avec 5 lits. Chaque mois, environ 30 femmes déplacées y accouchent dans des conditions difficiles avec un équipement limité. Faute de médicaments, d'autres patients ne peuvent être pris en charge, comme l'explique Thierry Boukikojo, chargé des liaisons communautaires entre les postes de santé et les déplacés.
Avant, le centre s'occupait des soins primaires, mais actuellement, il y a rupture des médicaments. Le centre s'occupe exclusivement de la maternité.
Une femme rencontrée sur place raconte.
Mon enfant était malade, souffrant de malnutrition et d'ulcères buccaux. J'ai été transférée à l'hôpital général.
Malgré ces défis, les postes de santé de Kigonze demeurent un phare d'espoir, en particulier pour les femmes enceintes déplacées qui y trouvent encore un refuge et des soins essentiels. Bounia, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Burundi fait face à une hausse des cas de monkeypox chez les enfants scolarisés âgés entre 5 et 19 ans, ce alors que les élèves viennent tout juste de reprendre le chemin de l'école. Depuis le premier cas confirmé le 25 juillet dernier, le Burundi a signalé 564 cas de variole de singe, dont 62,9% sont âgés de moins de 19 ans et plus de 1576 cas suspects.
L'invité.
Il nous vient du Kasaï oriental. L'université officielle de Mbujimayi se dote de plus en plus des équipements pour permettre aux étudiants de concilier la théorie à la pratique. Cependant, elle est confrontée à plusieurs défis liés à la violence physique, morale et à la corruption. Le professeur Abbé Chibakati Kongo, recteur de cette université, en parle avec Esther Ndalafina.
Monsieur l'abbé Apollinaire Chibaka Chikongo, vous venez de présenter à la presse autant d'équipements pour quelques facultés de l'UOM. Comment avez-vous obtenu cette dotation?
Il faut d'abord dire que à l'université, la formation est complexe, elle exige donc des infrastructures appropriées. Et là, on est en train de fournir un effort pour doter toutes les facultés des laboratoires qui conviennent. Alors, on a obtenu cela grâce à la conjugaison d'une collaboration entre des partenaires occidentaux, certains partenaires locaux, mais aussi les moyens propres. Chaque étudiant, par an, paye $30 comme contribution à l'équipement, à la construction. Il paye aussi des frais de laboratoire, donc nous avons fait des économies sur ces frais-là.
Vous avez parlé des voyages de quelques enseignants de l'université vers l'étranger. Qui les prend en charge?
Là, c'est encore des partenaires étrangers, mais l'université apporte aussi sa contribution. En fait, au total, ça fait 25 bourses. Il y a 3 bourses en Espagne et les 3 boursiers voyagent déjà ces 18. Ils vont en Espagne, c'est un programme dans lequel ils sont inscrits sur 3 ans en vue de la défense de leur thèse de doctorat. Ils vont donc effectuer des séjours de recherche, ils vont donc aussi apprendre l'espagnol et travailler avec ce co-directeur-là qui les accompagnera pendant 3 ans. Et il y en a 2 qui vont en Allemagne, ils viennent de terminer 3 mois de formation d'initiation à l'allemand à Kinshasa. Ils ont réussi au test, ils sont pris en charge par une fondation catholique Allemagne, Fondation Hans Seidel. Ils vont donc travailler dans des centres de recherche, donc ils vont en formation, ils ont donc des directeurs et des universités qui vont les accueillir. C'est que les personnes qui vont sont inscrites aux études doctorales au Congo, c'est donc des étudiants congolais qui font des études au Congo, mais qui effectuent des séjours de recherche en Europe où ils sont accompagnés par des co-directeurs de leur thèse. Comme ça, on peut au bout de 3 ans avoir au moins 25 nouveaux professeurs dans ces différents domaines. Des partenaires européens financent leur séjour, leur travail sur place. L'université apporte une contribution, notamment dans l'un ou l'autre cas, pour ce qui est du voyage ou de l'assurance.
Les étudiants de l'UOM sont éparpillés dans beaucoup de coins de la ville pour suivre les enseignements. L'université officielle de Mbujimayi est en pleine construction. Quand la fin des travaux?
Les travaux sont très avancés. Les auditoires et les hommes, donc de la première phase, seront probablement achevés avant le mois de décembre. Maintenant, la présidence de la République a lancé de nouveaux travaux qui vont nous permettre d'avoir un grand amphithéâtre de 400 places et deux auditoires de 200 places chacun. D'après les informations dont nous disposons de cette deuxième phase, ces travaux-là pourront aller jusqu'au mois de juin. Si les calendriers sont respectés, la première partie, au moins les grands auditoires, pourront être utilisés déjà au courant de l'année académique 2024-2025.
Monsieur l'abbé recteur, vous déplorez chaque fois le vol et la destruction méchante des biens de l'université. Maintenant que vous venez d'acquérir des nouveaux équipements, quelle stratégie avez-vous mis en place pour éviter ce que vous déplorez?
Maintenant, l'idée que nous avons, c'est de construire un centre de recherche où on va placer les différents laboratoires et des mécanismes de contrôle. Par exemple, les appareils, nous allons les sécuriser en installant des câbles de fixation, hein, de sorte qu'on peut utiliser l'ordinateur, mais on ne peut pas l'emporter parce que le câble de fixation ne se coupe pas.
Quelles sont les difficultés auxquelles cette université est confrontée?
Beaucoup de difficultés. Il y a d'abord au niveau des infrastructures. Ce qui est fait pour nous, c'est déjà beaucoup, mais c'est peu par rapport aux besoins. Donc, les infrastructures qui sont faites, c'est en fait pour 3200 étudiants, alors que nous avons le triple de cette capacité-là. L'autre difficulté qu'il y a, c'est le péché capitaux de l'université congolaise. C'est une université où il y a beaucoup de violence. Violence physique, violence verbale, violence morale. L'autre difficulté, ce sont des antivaleurs, des corruptions, des tricheries, de trafic parfois de points.
Abbé Apollinaire Tshibaka, merci.
Merci beaucoup, Esther Ndalafina.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.